Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Tout de suite, nous accueillons donc notre invité santé du jour. C'est vous, docteur Alain Abzalag. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien dentiste à Paris et le co-auteur avec votre fils Jérémy, dentiste lui également, du livre « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie ?» qui est paru chez Hugo New Life. On va rentrer dans l'univers mystérieux de la bouche et des dents avec vous ce matin et les liens avec le reste du corps. La preuve, hein, vous commencez votre livre par dire que la bouche est la première porte d'entrée des maladies. Expliquez-nous cela.
Alors, c'est la première porte d'entrée d'abord via les dents. Les dents sont étroitement connectées au reste de la circulation, aux organes vitaux. On peut imaginer que le nerf de la dent puisse transmettre des bactéries qui passent dans la circulation et atteindre en fait tous les organes vitaux, y compris le cœur, les reins, et puisse induire donc des maladies parfois graves. Les gencives également sont par les petits vaisseaux des gencives, eh bien on peut avoir une colonisation donc de la circulation et ça peut atteindre le cœur, tous les organes vitaux et induire malheureusement, parfois, des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou le cancer du pancréas. On commence à établir un lien entre ces pathologies et une infection dentaire qui aurait diffusé dans la circulation.
Alors, on va commencer, docteur, par un trouble du sommeil bien connu, c'est le bruxisme. C'est le fait de grincer des dents, dit comme ça, ça a l'air bénin. Mais vous dites que ça peut être gravissime si on ne fait rien. Expliquez-nous.
Alors, gravissime, ça va pas mettre en jeu le pronostic vital, mais gravissime pour notre corps. Alors, le bruxisme, c'est un grincement ou un serrement incontrôlé des dents. On a remarqué que depuis la sortie du premier confinement, il y avait une recrudescence de bruxisme importante. Plus 30% selon une étude israélienne.
Pourquoi? C'est le stress? C'est quoi?
C'est un syndrome post-traumatique. C'est le stress, l'angoisse. Ça peut être... Bon, là, c'était le Covid. Mm-hmm. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil. Et tout stress important, même un licenciement, peut... impacter nos muscles et ça va induire, en fait, c'est comme si toutes nos crispations et les angoisses venaient se cristalliser sur les mâchoires. Donc le bruxisme, c'est un grincement ou un serrement incontrôlé des dents. Alors, je vais essayer d'être rapide. On mastique à peu près 1h30 par jour, si on cumule tous les repas. Eh bien là, si vous rajoutez 9 heures de sommeil, c'est comme si vous mastiquiez pendant
la moitié
de la journée. C'est comme si un sportif faisait un marathon tous les jours. C'est juste pas possible.
Donc ça s'use.
La conséquence, ça abîme les articulations, mais surtout, ça use les dents. Les dents finissent par s'user. Et ce qui est grave, c'est que non seulement elles s'abîment, on peut les abîmer, voire les perdre, mais c'est que le visage, il vieillit prématurément. Pourquoi? Pourquoi prématurément? Parce qu'en fait, en grinçant les dents, eh bien, l'étage inférieur s'amenuise. Et on peut avoir des sillons lasogéniens ou des rides précocement.
Oui, donc des conséquences esthétiques.
Avant l'âge. Donc il y a des conséquences esthétiques importantes.
Donc ça, c'est esthétique. Mais ce qu'on ignore, c'est que le bruxisme, donc grincer des dents la nuit, ça peut avoir des conséquences sur d'autres parties de notre corps. Par exemple, sur la nuque, sur les cervicales, même des acouphènes, je crois.
Absolument. Alors, si on regarde, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait en SVT ou en cours de biologie, il y avait le squelette. Mm-hmm. Eh bien, quand on regarde un squelette, la première articulation mobile du corps, ce sont les mâchoires. Mm-hmm. Et tout trouble, s'il y a, on va dire, une surcharge de ces articulations, ça va en priorité se poser sur les cervicales, sur les dorsales, et ça peut même avoir un effet au niveau des hanches. Donc ça, c'est vraiment la première articulation, et si elle est sursollicitée, eh bien, il va y avoir des crispations au niveau de la nuque, au niveau du dos. C'est pas le facteur déclenchant, mais un facteur aggravant. Certainement.
Alors, il y a un autre problème de sommeil que le chirurgien dentiste peut traiter, c'est l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces patients-là?
Alors, pour l'apnée du sommeil, il y a bien évidemment cet appareil qui nous aide donc à mieux respirer la nuit et qui est un peu gênant et contraignant. On réalise donc des apnées qui permettent de mettre la position de la mâchoire du bas dans une position très particulière et qui évite dans 30% des cas d'avoir recours à ces appareils. Et donc, régler l'apnée du sommeil,
ça dépend quelle est la cause de l'apnée aussi, non? Alors, j'imagine.
Déjà, je rassure les auditeurs, si on bruxe, on ne peut pas avoir l'apnée. On ne peut pas avoir les deux.
Bon, on ne peut pas cumuler.
Dieu merci. Bon. Quant à l'apnée, bon, bien évidemment, il y a cette fatigue de la journée qui est extrêmement importante et surtout cette angoisse du patient qui doit porter cet appareil. Et là, c'est vraiment un tue-l'amour. C'est vraiment...
Ça
atteint vraiment profondément le couple.
Et vous, c'est quoi? C'est des orthèses que vous proposez?
Des orthèses mandibulaires qui mettent la mâchoire du bas dans une position très précise qui prévient.
C'est des gouttières, hein, c'est ça? Expliquer aux gens à quoi ça ressemble.
C'est une orthèse. C'est une gouttière, un peu différente d'une gouttière de bruxisme, qui nous oblige à mettre la mandibule dans une certaine position, ce qui prévient l'apnée du sommeil.
Oui, alors comment on sait si on souffre d'apnée du sommeil? Le bruxisme, c'est assez simple, parce que généralement, la personne qui dort avec vous s'en plaint, voilà. Mais l'apnée du sommeil, comment savoir si on en souffre?
Eh bien, on est extrêmement fatigué dans la journée. On a en général des yeux très marqués, même si on pense avoir bien dormi. Et surtout, on peut, à la limite, dans la journée, le matin, piquer du nez à son bureau. On a vraiment...
On
est épuisé et on peut parfois s'endormir comme ça.
Alors docteur, on va continuer de faire le point sur notre santé dentaire avec vous dans quelques minutes et on va détailler justement ces problèmes dentaires ou de gencives qui peuvent avoir des répercussions qu'on n'imagine même pas sur notre santé cardiovasculaire, par exemple. Vous allez l'entendre, en fait, soigner sa dentition, c'est prendre soin de sa santé globale. Pour les détails et les conseils pratiques, restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, c'est votre santé dentaire qu'on prend à bras le corps. On fait cela avec le docteur Alain Amzalag, chirurgien dentiste et le co-auteur du livre « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie » paru chez Hugo New Life. Alors, on apprend aussi hein, dans votre livre, docteur, qu'il peut y avoir des interactions entre nos dents et notre cœur. Mais ça, je ne comprends pas comment c'est possible concrètement.
Alors, je vais essayer d'être très simple. Imaginez qu'il y ait des bactéries qui passent, des bactéries dentaires, elles passent soit via une inflammation des gencives, soit via le nerf de la dent qui s'infecte. Ces bactéries passent dans la circulation et le système immunitaire s'active. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contracte les vaisseaux, tout simplement. Si ces vaisseaux, ces artères, sont déjà rétrécis par des plaques d'athérome, des plaques de graisse, eh bien, si ça se contracte, ça peut se fermer complètement et ça peut provoquer un infarctus du myocarde ou un AVC.
Voilà, incroyable.
Tout simplement.
Ça y est, j'ai bien compris.
Donc c'est ça. Donc vous voulez dire qu'une mauvaise hygiène dentaire, parce que bon, si a priori il y a des bactéries, c'est qu'il y a peut-être un défaut d'hygiène, ça peut aller jusqu'à nous provoquer un infarctus.
Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut. Écoutez, on prend l'exemple récent de Michel Drucker. Michel Drucker avait une fragilité cardiaque, donc, et il a eu un soin dentaire tout simple, sans antibiotiques. Il y a eu ce qu'on appelle un essaimage bactérien, une diffusion bactérienne qui a atteint le cœur et il a failli mourir. Là, je ne trahis pas le secret professionnel, c'est Michel Drucker lui-même qui parle de son expérience, qui le dit.
Bien sûr.
Une simple hygiène bucco-dentaire, des visites de contrôle, un simple détartrage, une visite de contrôle peut prévenir ce genre de choses.
Ça vaut le coup. Hein,
or, ces visites sont accessibles à tous. Mmh. C'est intégralement pris en charge en plus.
Alors, il y a une maladie cardiaque grave, l'endocardite infectieuse, qui elle s'est prouvée, hein, je crois, peut carrément commencer par une simple carie. C'est vrai ça?
Non. L'endocardite infectieuse.
Tant mieux.
Non, mais une carie compliquée, oui, peut l'induire. C'est vrai.
Ah bon?
Oui. Alors. L'endocardite infectieuse, imaginez qu'on ait une angine très, très importante lorsqu'on était enfant, il peut y avoir une petite atteinte d'une valve cardiaque qui est totalement asymptomatique, c'est-à-dire on ne se rend compte de rien. Eh bien, s'il y a une infection dentaire ou un geste dentaire, un simple détartrage peut provoquer une diffusion bactérienne dans la circulation et provoquer, on va dire, une complication foudroyante qui peut aller jusqu'à la mort. Et en général, lorsqu'on a un rhumatisme articulaire aigu, on le sait, et un simple détartrage doit être fait sous antibiotiques. Ce qui ne fut peut-être pas le cas chez Michel Drucker. On aurait peut-être pu éviter cette complication. Voilà.
Alors, ce lien entre santé dentaire et santé cardiaque, il est connu, en tout cas de vous les professionnels, depuis un certain temps. Vous êtes même parfois obligé d'intervenir avant une opération cardiaque, vous les dentistes. Vous l'avez vécu, je crois, avec l'un de vos patients. Racontez-nous.
Alors, avant toute chirurgie cardiaque et même une chirurgie de la hanche ou du genou, on est obligé donc d'éliminer tous les foyers infectieux. Donc on fait une radiographie et s'il y a une infection persistante, l'intervention sera différée.
Donc check-up complet dentaire avant une intervention.
L'intervention chirurgicale, qu'elle soit du cœur ou de là, encore plus du cœur. C'est-à-dire pour le cœur, on va être encore plus vigilant. Mmh. Elle est conditionnée à l'absence de foyers infectieux. Et s'il y a une infection dentaire et qu'on n'a pas le temps de la soigner, malheureusement, on va retirer la source de l'infection. C'est parfois la dent ou les dents avant là, parce que le pronostic vital du patient est en jeu.
Alors, on apprend également dans votre livre que parfois un problème au niveau des yeux peut être traité dans la bouche. Alors là aussi, il faut m'expliquer.
Alors, C'est toujours à peu près le même process, c'est-à-dire qu'en fait, une infection dentaire peut diffuser dans la circulation, elle peut atteindre d'autres organes, dont les yeux, et il peut y avoir parfois ce qu'on appelle une UVI, c'est-à-dire une infection de la tunique interne de l'œil, qui peut parfois nous rendre aveugles. Même chose, avant une chirurgie de la cataracte ou ophtalmique, le médecin adresse le patient à son dentiste pour prévenir, pour éliminer tous les foyers infectieux.
Alors, autre chose qu'on apprend dans votre livre, vous êtes aussi capable, vous, les chirurgiens dentistes, de détecter des patients, on va dire, nouvellement diabétiques. C'est quoi les signes dans la bouche qu'il y a un diabète débutant?
Alors, les gencives, si les gencives... Alors, il arrive parfois, ce que je racontais dans mon livre, un jeune de 25 ans qui fait un diabète de type 2 qui est lié à une surconsommation de toutes les cochonneries. Eh bien, les gencives sont complètement... Ils venaient pour un simple détartrage et ces gencives étaient anormalement enflammées avec une petite haleine particulière. Une petite odeur d'acétone, enfin quelque chose de très particulier. Et en l'adressant à son médecin, on a trouvé qu'il faisait un diabète de type 2.
Vous donc avez dépisté ça quasiment à l'odeur presque, hein,
c'est
ça ?
Non, à la vision, aussi, les dents, l'examen buccal, les gencives étaient vraiment, vraiment très abîmées.
Mais ça veut dire que si je poursuis, en traitant les dents, on peut prévenir le diabète ou le guérir ?
Alors, non, on va dire qu'il y a un lien bidirectionnel entre les dents, la bouche et le diabète. C'est-à-dire une infection dentaire ou une infection des gencives, va aggraver le diabète. Et réciproquement, le diabète va aggraver l'état des dents. Alors, je vais essayer de vous expliquer très simplement. Il y a donc des médiateurs chimiques qui sont libérés dans la circulation qui empêchent l'insuline d'agir. Ça veut dire que l'insuline est là pour baisser le taux de glucose. Donc, un diabétique peut voir son insuline modifiée, donc le traitement qui sera plus efficace à cause d'un médiateur chimique qui est la TNA alpha qui passe dans la circulation et qui empêche l'insuline d'agir positivement, c'est-à-dire de diminuer la quantité de sucre dans le sang.
Alors vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais on va détailler ça encore plus inattendu dans votre livre où vous dites que chez les malades d'un cancer du pancréas, aujourd'hui, on s'intéresse désormais à ce lien avec notre santé bucco-dentaire.
Alors, on commence à aujourd'hui établir un lien entre une infection dentaire ou des gencives et le cancer du pancréas. Donc il y a toujours la même bactérie, c'est la Porphyromonas gingivalis qui serait retrouvée donc en quantité importante. Et là, c'est une dernière étude américaine de l'université de Chicago, mais aujourd'hui, on va dire établirait une relation.
C'est pas encore un lien de causalité,
bon,
hein.
Mais bon, on commence à évoquer cette hypothèse. Alors, par contre, on est un peu plus avancé sur la maladie d'Alzheimer. Là aussi, donc, c'est une maladie qui commence à devenir de plus en plus fréquente. Et on a trouvé toujours la même bactérie dans le cerveau des personnes, enfin après leur mort, bien évidemment, rassurons d'abord.
On n'ouvre pas les cerveaux pour vérifier ça. Ouais.
Donc on a trouvé ça, et on s'est amusé à faire une étude, on a fait une étude extrêmement poussée sur des souris, on a pris une dizaine de souris, et ces souris, on leur a injecté cette fameuse bactérie dentaire, et on s'est aperçu qu'ils avaient une dégénérescence des neurones identique à celle qu'on retrouvait dans les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Donc, prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de sa santé cognitive même.
C'est essentiel. Ouais. Et là, on ne fait peut-être pas trop attention dans les EHPAD, et il faut être extrêmement vigilant. Je parle là juste d'hygiène bucco-dentaire. On ne parle pas de soins importants, de caries, mais le simple fait de bien traiter ses dents et ses gencives...
De faire des détartrages régulièrement aussi.
Tout simplement. Et un contrôle permet... Bon, on ne va pas dire que ça supprime totalement les risques, mais au moins on évite ce risque-là.
Alors justement, c'est quoi un bon détartrage, enfin la fréquence? Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous?
D'abord, le meilleur dentiste, c'est le patient. S'il a une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire le fil dentaire, les brossettes dentaires et le brossage, sincèrement, il a fait le maximum du boulot. Un détartrage tous les ans doit suffire, sauf les personnes qui ont une fragilité particulière.
Alors on apprend aussi dans votre livre que les sportifs sont plus vulnérables sur le plan bucco-dentaire. Alors comment on explique ça?
Toujours par la même raison, c'est-à-dire qu'une infection dentaire pourra... Bon, dans le cas d'une infection dentaire, les bactéries vont diffuser dans la circulation et attaquer des tendons, le cœur aussi, bien évidemment, des tendons, les muscles, les articulations, ça peut provoquer aussi une pubalgie. Et dans le cas d'un mercato, si un joueur qui doit acheter à des millions d'euros présente une infection dentaire, on ne le prend pas.
À ce point-là? Parce que
ça conditionne l'achat. C'est carrément essentiel.
Ça vaut le coup d'aller chez le dentiste.
Et petite anecdote, justement, je crois qu'il y a plusieurs années de cela, un cycliste très connu a dû arrêter le Tour de France à cause de problèmes dentaires.
Bernard Hinault. Il a eu une infection au niveau d'une dent de sagesse et il a abandonné.
comme quoi c'est vraiment définitif, enfin, très important. Hein. Les footballeurs, hein, vous le disiez, sont très suivis au niveau dentaire. Notamment, vous parliez des pubalgies. Alors déjà, rappelez-nous ce que c'est la pubalgie.
C'est une douleur extrêmement violente, inflammatoire, qui peut arriver donc, un petit peu aux alentours du pubis.
D'accord. Et c'est quoi le lien avec la mâchoire alors ?
Eh bien, toujours la diffusion d'infections dentaires. Donc la diffusion des germes dentaires via la circulation peut atteindre tout le corps.
Incroyable. Donc effectivement, on a bien compris qu'il fallait faire des tartrages, se brosser les dents et faire attention à ce qu'on a dans la bouche, simplement.
Les grands champions font aussi des traitements orthodontiques parce que le parfait emboîtement des dents va aussi impacter le squelette.
Ah oui.
Et un joueur qui a un parfait emboîtement des dents, qui peut être amélioré grâce à l'orthodontie, va avoir un meilleur équilibre physique et dynamique.
Et ben voilà, ça donne de l'espoir à tous nos adolescents, ceux qui nous écoutent et qui ont un appareil dentaire. Merci en tout cas, docteur, de nous avoir accompagnés ce matin. On a donc compris que c'était très important et que toute infection dentaire non traitée peut se propager dans l'organisme et induire évidemment d'autres problèmes de santé. La clé, c'est donc, comme toujours, la prévention. Mélanie, allez, un petit contrôle dentaire et ça repart. Merci, docteur.